Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Deuxième partie de notre entretien avec Cheikh Sidi Diarra, conseiller spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique. Escale dans ses bureaux new-yorkais sur la première avenue à Manhattan. Maafé Yakasse Micro, bienvenue à tous. Vétéran diplomate, notamment ancien ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, Cheikh Sidi Diarra a été appelé à quitter ses fonctions pour travailler auprès de Ban Ki-moon en 2007. 5 années de collaboration étroite avec le secrétaire général des Nations Unies, 5 années de gestion de crises sensibles et de dossiers aussi divers que l'économie, l'environnement, la sécurité, les conflits régionaux, la croissance ou le développement. Dans cette seconde partie de notre entretien avec Cheikh Sidi Diarra, nous allons passer en revue la situation au Soudan, en Côte d'Ivoire, des dossiers juridiques et de justice africaine entre autres. Mais pour commencer, j'ai demandé à mon invité de revisiter la situation au Soudan hier et aujourd'hui.
La mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine a fait un travail formidable concernant le Darfour. Le travail n'est pas achevé, mais on a consacré beaucoup de temps et de ressources et d'énergie à ramener les parties à la table de discussion, à Doha essentiellement. La difficulté, c'est qu'il y a plusieurs fractions qui combattent le gouvernement central. Et quand on réussit à ramener certaines de ces factions à la table, d'autres, entre-temps, récusent les négociations. Cela fait que, malgré les accords qui ont été signés à Doha et malgré la normalisation entre Khartoum et N'Djamena, la situation perdure. Il y a encore aujourd'hui des mouvements qui sont militairement engagés contre le gouvernement central de Khartoum. Mais il n'en demeure pas moins que, en plus des bons offices du médiateur, qu'il y a un représentant spécial conjoint qui est basé sur le terrain là-bas et qui déploie des moyens militaires pour superviser la cessation d'hostilité et la normalisation, en même temps qu'il y a l'assistance humanitaire et la protection des populations civiles. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès et si nous continuons nos efforts, la situation au Darfour pourrait se régler dans un futur proche.
Comment c'est de travailler en fait avec un président qui est sous mandat d'arrêt international et qui, avec l'aide de l'Afrique et des chefs d'État africains, de l'Union africaine, nargue la communauté internationale? Comment c'est de travailler avec M. Al-Bashir?
Je peux difficilement répondre à cette question. Je n'ai pas eu la chance d'être dépêché pour le rencontrer, comme il y a un représentant spécial. Ensuite, il y a un médiateur conjoint.
Mais les Nations Unies travaillent avec lui et son gouvernement.
Les Nations Unies sont obligées de travailler avec le gouvernement soudanais. Parce que il faudrait bien des interlocuteurs. Vous pouvez pas vouloir la paix, vouloir amener les parties à la table des négociations si vous boudez une partie. Et maintenant, comment est-ce que le médiateur ou le représentant spécial s'y prend? C'est une question assez sensible sur laquelle il faut travailler, mais logiquement, dans les faits, vous ne pouvez pas être médiateur, offrir vos bons offices et refuser de parler à une des parties. Et la partie la plus principale, en fait.
Je voulais qu'on reste sur le Soudan. Au mois de juillet dernier, un nouvel État, le Sud-Soudan, après des décennies de guerre entre le Nord et le Sud, était créé avec la volonté du peuple du Sud-Soudan. Les Nations Unies et la communauté internationale applaudissaient la naissance de ce tout nouveau né, mais tout le monde, les observateurs politiques notamment, disaient que tout allait capoter lorsque le dossier d'Abyei et la répartition des ressources pétrolières allaient être sur la table. C'est ce qui s'est passé entre autres. Est-ce que vous êtes satisfait de la situation actuelle sur le terrain? Est-ce qu'il y a des moyens d'en sortir? Ou est-ce que il serait plus logique de penser que le retour à la guerre est propice et possible?
Non, les Nations Unies ne peuvent pas exhorter le retour à la guerre. Nous pensons qu'il y a toujours des moyens pacifiques pour régler les choses. Le processus engagé par l'Union africaine avec le comité de haut niveau pour la mise en œuvre des accords présidée par le président Thabo Mbeki, à notre avis, fait des efforts importants. Plusieurs arrangements ont été convenus entre les parties depuis juin, juillet de l'année dernière jusqu'en février de cette année, dont un mémorandum d'entente sur la non-agression mutuelle. Mais bon, la situation sur le terrain est ce qu'elle est. Vous êtes au courant des développements récents, des mouvements de troupes de part et d'autre. Ça, c'est des choses que nous estimons que ne vont pas soutenir la tendance que nous souhaiterions voir prévaloir, c'est-à-dire la tendance du règlement pacifique. Par contre, une dernière information que nous avons depuis quelques jours, c'est le retrait de la police sud-soudanaise de la région d'Abyei. Donc, nous estimons que ça, c'est un bel acte posé de la part du Sud-Soudan. Et le secrétaire général a appelé la République du Soudan aussi à en faire de même, à retirer ses troupes de la zone et à faire fonctionner le comité conjoint entre les deux pays sur la gestion de ces situations-là. Je pense que ça, c'est l'approche. D'abord, poser des actes du genre à réduire l'intensité de la tension et de la crise. Ensuite, continuer le dialogue parce qu'il y a des mécanismes conjoints par lesquels les discussions ont eu lieu, non seulement sur Abyei, mais sur les autres questions, la nationalité, le partage des ressources et autres. Et les Nations Unies offrent leurs auspices pour soutenir l'initiative de l'Union africaine. Donc, nous pensons que la voie royale, c'est celle du dialogue.
Alors, on va passer à la Côte d'Ivoire où les choses se sont un peu mieux passées, on va dire, selon aussi l'évaluation et les analyses des observateurs. Depuis 2006, Laurent Gbagbo avait fait croire à la communauté internationale que les élections allaient avoir lieu l'année prochaine et l'année d'après, les élections devaient avoir lieu. Elles n'avaient jamais eu lieu, au point que beaucoup d'observateurs pensaient que les élections n'allaient pas avoir lieu avant 2025. Il y a eu une opération robuste en 2010 de la part de l'ONU et de la Force Licorne qui a délogé Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire essaie de se ressaisir avec un gouvernement mis en place, la paix de retour, et Alassane Ouattara et ses hommes qui essaient de faire la justice des vainqueurs, une justice qui plaît à certains et qui déplaît à d'autres.
Alors moi je veux vous dire que Alassane Dramane Ouattara, en tant que président de la Côte d'Ivoire, a honoré un des engagements qu'il avait pris avec ses alliés, le parti Ofwétiste, qui consistait à louer le poste de Premier ministre. Donc, le premier ministre Guillaume Soro a démissionné et c'est un représentant du parti Ofwétiste qui a pris les commandes du gouvernement. Les élections législatives se sont déroulées normalement. La commission sur la vérité et la réconciliation a été mise en place et un dialogue politique est en cours au point que un des leaders de l'opposition qui était l'ancien président du FPI, qui est maintenant le président du LIDER, un autre parti créé depuis, a reconnu lui-même que le gouvernement est dans la bonne direction en ce qui concerne le dialogue politique et l'évolution de la situation socio-économique dans le pays. Il a encouragé le gouvernement à persévérer dans cette voie. Donc, c'est vous dire que les choses progressent. Avec la présidence de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire arrive à se distinguer aujourd'hui en imposant des sanctions sur tout changement inconstitutionnel qui est déjà survenu ou qui surviendrait dans l'un quelconque des pays de la sous-région. Et cela, en fonction de sa propre expérience passée, ils ont tiré les enseignements et ils ont estimé qu'il ne faut pas tolérer que la démocratie soit remise en question. Je pense qu'ils sont dans la bonne voie. Et des gens qui ont visité la Côte d'Ivoire récemment m'ont dit que l'économie a repris.
Tout ça, c'est très bien, mais lorsque Laurent Gbagbo a été délogé quelques jours avant, et les hommes de Gbagbo et les hommes de Ouattara avaient commis des massacres. Laurent Gbagbo est dépêché à La Haye. Alassane Ouattara dit que ceux qui ont commis des massacres vont être jugés, nés de camp, mais Alassane Ouattara, lui, arrive au pouvoir et il n'est pas jugé. Est-ce que c'est normal?
Je vais vous dire, l'appréciation de cela relève de la compétence de la Cour pénale internationale et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, en tant que fonctionnaire du secrétariat des Nations Unies, je ne peux pas qualifier les actes posés par un homme d'État. et en particulier un président de la République. Par contre, si la Cour pénale internationale estime qu'elle dispose de suffisamment de faits incriminant une personnalité ou un groupe de personnes, c'est à elle d'apprécier. Mais une fois qu'elle aura fait sa décision, le secrétariat des Nations Unies soutient en ce moment l'action de la Cour pénale internationale. Mais je ne peux pas m'asseoir dans ce fauteuil et dire d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement qu'il est coupable ou qu'il ne l'est pas, je ne peux pas le faire.
Alors, je vais glisser sur le dossier de la justice. Et aussi, ce sont les observateurs qui le disent. Beaucoup d'observateurs, et beaucoup d'observateurs africains notamment, se sentent diminués du fait que la justice internationale, notamment, ne s'occupe que des chefs d'État africains. Je pense à Gbagbo, je pense à Charles Taylor, je pense notamment au cas Kadhafi fils. Pourquoi le jugement international, les tribunaux internationaux est exclusivement limité aux chefs d'État africains, alors que beaucoup estiment que des premiers ministres étrangers, européens, moyen-orientaux, nord-américains ou autres méritent également d'être jugés pour des crimes qu'ils auraient commis dans d'autres régions du monde?
Écoutez, cette assertion, je ne la partage pas non plus, je vais vous dire pourquoi. Le tribunal international de l'ex-Yougoslavie, qui était aussi basé à La Haye, a connu et connaît aujourd'hui encore des cas d'ex-dirigeants, ex-Yougoslaves, dont le plus fameux ou malfameux, c'était Milosevic, qui est décédé en prison, et d'autres ont suivi depuis. Présentement, il y a deux autres, Ratko Mladic et puis son patron, qui était en Bosnie-Herzégovine, ont été pris par la justice internationale, sont en train de passer devant les tribunaux. Donc, il n'y a pas que les tribunaux africains. Vous prenez le cas de Charles Taylor, c'est un tribunal pénal spécial qui a été créé pour la Sierra Leone. La seule raison qui l'a amené aux Pays-Bas, c'est justement pour le soustraire de l'influence de l'opinion publique de son pays, parce que pour des questions de sécurité, on n'était pas sûr. Mais la Cour pénale internationale, le concept de la Cour pénale internationale lui-même, moi je le trouve fabuleux. Il a été repris dans l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est exactement le même concept. Les dirigeants africains l'ont adopté. Mais quand la communauté internationale l'applique, on accuse d'être anti-africaine. Et puis, les gens qui se plaignent de l'existence de ces mesures-là, c'est parce qu'ils sentent l'épée de Damoclès planer au-dessus de leur tête. Parce que, justement, ils font des abus contre leur population. Un dirigeant qui dirige en transparence, qui respecte les droits de l'homme individuel et collectif, qui gère bien son pays, n'a aucune crainte à avoir par rapport à la Cour pénale internationale. Ce sont les dirigeants qui font des malversations, qui bafouent les droits de l'homme, ce sont eux qui ont peur de la Cour pénale internationale. Ils doivent être au contraire fiers aujourd'hui que le procureur de la Cour pénale internationale soit un Africain et de surcroît une Africaine de l'Afrique subsaharienne et qui est là justement pour dire les droits, non pas seulement aux dirigeants africains qui violent les droits, mais également à quelques dirigeants que ce soit à travers le monde qui pourraient être amenés à violer les droits.
Ces 5 années passées auprès de Ben Ki-moon, vous avez beaucoup voyagé avec cet homme, un homme asiatique qui n'est pas un homme de confrontation, qui est plutôt calme et qui fait les choses avec beaucoup de diplomatie et de discrétion. Vous avez des mémoires inoubliables?
Ce que je sais de l'homme, c'est que c'est un homme qui a une mémoire fabuleuse, qui prend possession et connaissance des dossiers dès qu'il s'y immerse là-dedans.
Et qu'est-ce que vous retenez de votre propre expérience?
Bon, vous savez, il y a beaucoup de tractations qui se passent au cours des voyages officiels du secrétaire général, surtout quand il participe au sommet de l'Union africaine, ou même ici au siège, à l'occasion de la session de l'Assemblée générale au mois de septembre. Il y a tellement de questions qui passent et... Alors, il y a des fiches pour chacune des questions, pour informer le secrétaire général sur la situation et lui dire, voilà, ce que vous pouvez éventuellement discuter si vous voulez rester dans le... ce que j'ai constaté chez lui, c'est que, avant d'aller dans les audiences bilatérales, dans chacune des poches du pantalon, de la veste, de la chemise, il y a un lot de fiches. Et dès qu'il arrive, il cherche dans la poche qu'il faut, la fiche qu'il faut, et il ne s'y est pas trompé du tout. Et ça, j'ai trouvé ça très amusant. C'est un homme extraordinairement organisé. Et puis, la structure de soutien, un secrétariat qui marche comme une machine bien huilée.
Interview exclusive de Cheikh Sidi Diarra qui doit bientôt léguer ses fonctions à son successeur, l'Égyptien Maged Abdelaziz, mais se dit fier d'un mandat riche en défis. Merci de nous avoir accompagnés dans cette escale new-yorkaise. Bonne semaine à tous et à toutes et à très bientôt, pourquoi pas à la semaine prochaine.